Ok, donc c'est dimanche matin. On va enregistrer le message. Il est le 5 janvier 2020. Pasteur Colburn, on est à Baltimore. Il va prêcher parce que Pasteur Shibeli, qui était prévu de prêcher, sa voix tout d'un coup n'est pas en bon état. Donc Pasteur Colburn va prêcher. Sa voix est enrouée. Donc, Pasteur Colburn a expliqué qu'il allait aller à la maison. Maintenant, il avait fini le culte à 9h, mais on lui a demandé s'il pouvait reprêcher encore à 11h. Donc, au culte, à 9h ce matin, on a parlé sur un sujet que Pasteur Schaller avait prêché. Pasteur Eugene a donné le sujet. C'était d'avoir une vision personnelle pour la vision quotidienne. Ta vision quotidienne, une vision personnel. La meilleure façon pour moi d'illustrer, pour moi, dans mon étude personnelle, j'ai approché ce sujet, je vais vous dire, en 2017, la famille de ma femme, son grand-père, il est italien. Il était né là-bas, en Italie, dans les Alpes italiennes, comme un jeune homme, à l'âge de 17 ans, 18 ans. Économiquement, donc sa petite fille, ma femme, lui a demandé pourquoi tu es venu en Amérique. Il a dit ben pour manger. Donc il y avait une crise, la famine, une crise économique quand il était jeune. Il est venu en Amérique. Donc Le grand-père donc est décédé à un moment donné. On vivait en France pendant 6 mois, il y a 2 ou 3 ans de ça. On était assez proche de là où le village, le grand-père a grandi. Je veux voir, donc allons voir visiter le village de ton grand-père, des cousins. Salinelli, c'est le nom de jeune fille de ma femme, dont elle est là-bas, au village. On a rencontré des frères et des sœurs de là, donc ça a fait une réunion de famille. Un week-end, on s'est rencontré dans le village de son grand-père. C'est un petit village dans les Alpes italiennes. Il y a une vallée qui est formidable. Il y a une montagne là, Le village, il est un tiers en montant sur la montagne. Le un tiers. On est descendu de la voiture, on était émerveillé de la vue, le panorama. Il y avait la vallée, toutes ces petites villes par-ci, par-là, la rivière au milieu de la vallée, l'autoroute. J'avais jamais vu une scène comme ça de ma vie. C'était émerveillé, on était émerveillé du panorama. Pendant 2 jours, on était là. Chaque fois que je sortais de la maison, on s'arrêtait, on regardait. Et waouh, je n'ai jamais rien vu, quelque chose comme ça, c'était ce matin. Lorsqu'on sort de notre maison à Baltimore, ici où on habite, à Perry Hall, c'est pas mal, c'est différent. Donc ça, c'était incroyable pour moi. Donc, cette vue incroyable, on avait là des montagnes. Pendant 2 jours, on était comme des petits enfants, on était émerveillés. Donc, le point de l'histoire, le cousin de ma femme, dans les générations de mes enfants à moi, un des jeunes hommes, il avait 30 ans. Un jour, donc il parlait anglais parfaitement, en italien, en Italie, au village. On est émerveillé de la vue là où tu habites, toi. Est-ce que tu sors de ta maison chaque jour? Est-ce que tu fais comme nous? Tu es émerveillé et tu admires la majesté de tout ça, du panorama? Je ne sais pas. Non, il dit non, pas du tout, non. Regarde autour de toi. Est-ce que tu vois là où tu regardes par toutes les directions? Ok, ce n'est pas une grosse histoire. Ce n'est pas une grosse affaire. Hein. Et moi, je ne pouvais pas lever mes yeux de ce panorama. Et chaque jour, c'est notre vie, on est ici, ok. Chaque jour, je vais Je me lève le matin et je prends ma voiture, je vais travailler. C'est la vie. C'est là ici, mais on ne fait pas trop d'attention tous les jours. Ils disent ça. Donc pour moi, c'était un peu comme tu peux être dans cette situation et tu n'es pas affecté quotidiennement comme nous on était affectés. Je pensais donc en relation avec le thème d'avoir une vision personnelle pour ta vie quotidienne. Chaque jour, je veux retourner à ce terme-là. La vie quotidienne peut être un ennemi de notre christianisme. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Pense à ton salut. Tu es sauvé récemment, ou il y a quelques mois, il y a quelques années, 10, 20, 30, 40 ans peut-être, peu importe le cas que c'est pour vous. Moi et ma femme, on a reçu Christ il y a 42 ans. Je me rappelle, on avait 25 ans à l'époque. On était mariés, tout nouveau, tout jeune, on n'était pas chrétien. On a été introduit à l'évangile. Les premiers mois, lorsque j'ai été sauvé, le gars qui m'a amené à Christ, il était enthousiaste. Il m'a donné une petite tapette sur le dos, une tape sur le dos. Kevin, il m'a amené à Christ à la table de sa cuisine. J'étais assis là. Pourquoi est-ce que ce gars-là, il est tellement enthousiaste? C'est quoi? C'est une grosse affaire, là? J'avais aucune idée de ce qui s'est passé envers moi, là, en fait. Lui, il savait. J'étais un non-croyant et maintenant je suis un croyant. Tout d'un coup, avec tous les bénéfices que Jésus-Christ avait pour moi dans un temps, tu commences à grandir dans ta foi et j'espère, et tout d'un coup, tu commences à entendre, écouter, tu entends la Bible, un message, tu lis quelque chose, Dieu te parle. Et tout d'un coup, cette nouvelle foi, elle vient, elle est vivante. Tu es émerveillé de Dieu. Tu as la majesté. Ça, c'est incroyable. Ta vie commence à changer. Tes habitudes commencent à changer. Tu es sauvé glorieusement. Et tout d'un coup, la gloire de ce salut commence. Tes priorités changent. Ça s'empare de toi, la gloire de ça. Tu vas à une étude biblique au lieu d'aller ailleurs. Tu vas à l'église dimanche matin au lieu de dormir et de faire quelque chose d'autre. Tu aimes être autour du corps de Christ. Il y a quelque chose d'unique et de différent par rapport à ces gens qui énergisent votre âme. Tu prends ta première Bible. C'est un Nouveau Testament. Elle était mauve, ma Bible. J'avais jamais lu la Bible dans mes premières 25 années de ma vie. Et j'ouvre la Bible et je suis là. Waouh, c'est incroyable ça. Le livre est vivant. Tu vas à une étude biblique. Pastor Moore, Pastor Handel. Il parle, la parole est vivante. Vous savez ce sentiment, comment est-ce que c'est ce qui se passe dans ma vie, qui leur a dit à propos de moi, vous savez. Tu te rappelles ce sentiment ou bien c'est que moi? Ce salut glorieux où tu es là, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai ça? C'est trop beau pour être vrai. Mais c'est... Tout ça, c'est vrai. Et ta vie, et tu vis dans cela. Nouvelle vie, nouveaux amis, nouvelle perspective, nouveau dessin, nouvelle priorité, nouveau potentiel. La Bible est vivante, les messages sont la vie, la prière est vivante. Tu embrasses le chemin étroit dans Matthieu chapitre 7, c'est notre vie. Et c'est formidable. Ça, c'est de la façon dont notre vie chrétienne devrait toujours être. C'est comme ça que l'on devrait vivre. Mais tu sais ce qui se passe? La vie quotidienne. La vie quotidienne arrive. Les détails de la vie arrivent. Tu sais? Les problèmes viennent dans ta vie. Les situations que tu n'as pas de contrôle. Les difficultés financières. Les problèmes au travail. Les problèmes de relations. Un million de choses. Même les bonnes choses de la vie. Même lorsque les choses vont bien dans la vie, parfois ça peut être plus dangereux. Parce qu'on peut... Je déteste de dire ça, mais on n'est pas attiré vers Dieu. Parce que de nos besoins, on existe dans nos propres initiatives. C'est un endroit dangereux de se retrouver. Comment ça se passe que chaque jour de la vie quotidienne nous éloigne de la gloire et de la majesté de ces jours de notre salut au début, de notre salut. Ça peut être arrivé facilement. Le grand exemple dans la Bible, un exemple, le livre d'Exode. Tu penses aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient, pendant des générations, avaient prié pour un délivre, un libérateur. Pendant des générations, pour le Messie d'être libéré de l'esclavage des Égyptiens, que le Messie vienne. Il est intéressant de savoir que Dieu a envoyé Moïse comme le libérateur. L'Égypte, le pays le plus fort dans le monde entier à cette époque-là, et Dieu amène et il fait ce qu'ils ont demandé, glorieusement. Au travers d'un ange de la mort, la mort et la destruction displayent toutes ces choses-là. Lorsqu'ils quittent, les Égyptiens leur donnent la bijouterie, de l'or, et tout d'un coup, c'est là. Waouh, c'est incroyable, Dieu, tu as fait ce que l'on a prié. Tu as fait ce que tu as accompli, ce que l'on a prié nous pendant 400 ans, c'est incroyable. Tout d'un coup, ils sont à la mer Rouge, le dos tourné, ils sont coincés à la mer Rouge. Les Égyptiens sont sur leurs talons. Moïse, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir, pour nous tuer. Il n'y a pas assez de la grâce en Égypte que tu nous as amenés pour mourir ici. Attends, arrête-toi une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça tout d'un coup? Et Dieu les libère à la mer Rouge et détruit l'armée égyptienne. 2-3 jours plus tard, 2 ou 3 semaines plus tard, Moïse, est-ce que tu nous as amenés ici pour nous tuer? On n'a pas de nourriture dans le désert. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Dieu de la mer Rouge, l'ange de la mort en Égypte, les plaies, les 10 plaies, tout ce que Dieu a fait? Tout d'un coup, chaque jour, la vie quotidienne est rentrée. Ils ont vu ça et la vie quotidienne arrive et leur vol, on a besoin de nourriture, on a besoin d'eau. Dieu nous a amenés ici pour nous tuer. Ça s'est passé envers eux. Ça s'est passé tellement rapidement. 4 mois après la mer Rouge, Moïse va sur la montagne pour être avec Dieu et recevoir les 10 commandements. De recevoir quelque chose de Dieu pour le peuple. Il est parti pendant 40 jours. Vous savez ce que les gens disent? Pour Moïse, là, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui, ce gars-là. 40 jours, 4 mois après la mer Rouge. Chaque jour, il y a la manne de la nourriture du ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu peut leur montrer de plus? Ils ont dit, mais pour ce Moïse-là, cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? Faisons des dieux. Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Faisons. Ils sont retournés en Égypte dans leur cœur. Ils ont fait d'un veau d'or. 4 mois après la mer Rouge, qu'est-ce qui a changé? La vie quotidienne, les détails de la vie, peut nous enlever des choses de la majesté et de la gloire de qui Dieu est, de ce qu'il a fait pour nous. Ça peut se passer envers chacun d'entre nous. La grande phrase de Pierre, Jésus dit, voici ce que je dois faire. Et vous allez tous vous éloigner de moi. Pierre a dit, non, pas moi, Seigneur. Je vais mourir pour toi. Je vais aller jusqu'à la fin, jusqu'au bout pour toi. Je ne sais pas ces gens, ces gars-là, mais vous, pas moi, vous connaissez tout ça, l'histoire de Pierre. Et le jour suivant, il renie Jésus-Christ. Ça peut se passer à chacun d'entre nous. C'est un danger pour nous dans notre vie chrétienne. Comment? On commence ici, dans cette relation incroyable avec Dieu. Dieu nous parle, on reçoit, on grandit. Et doucement, on est éloigné. Pas dramatiquement, mais doucement. On s'égare tout doucement. On est enlevé de qui Dieu est. Maintenant, on opère jour après jour. Pas de vision, pas de dessein éternel. Et ça se passe chacun d'entre nous. Pierre, qui a vu Jésus transfiguré sur la montagne, aux enfants d'Israël, ils ont vu des miracles. Non pas comme moi, mais ils ont vu des miracles comme ils n'avaient jamais vu avant avec Moïse. Ça peut se passer envers nous. Bien sûr, ça s'est passé parfois dans nos vies. Comment? La deuxième partie de cette phrase, je ne sais pas où elle est partie, mais comment est-ce qu'on va? Voici ce que je veux dire. Ça, c'est la partie qui peut nous encourager dans notre marche avec Dieu. Tout d'abord, et ça paraît d'être l'opposé. Proverbe 29, 18. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Et je peux dire, c'est décourageant. Pourquoi est-ce que tu amènes ce verset? Moi, je n'ai jamais aimé ce verset, honnêtement. Ça me condamnait d'habitude. S'il n'y a pas de vision, je n'ai pas une vision. J'ai jamais eu une vision. Pas comme Pierre, ou Cornelius, ou dans le livre des Actes, dans l'Ancien Testament, Abraham, ils ont vu des choses et Dieu les a dirigés. Paul, l'homme macédonien qui lui dit, viens vers nous. Ça, c'est une vision. C'est toujours comme ça que j'ai regardé, moi, une vision. J'ai jamais eu de vision. Dieu, est-ce que ça veut dire que je vais périr? C'est comme ça que je regarde ce verset. Ça m'a toujours condamné. Je dis, c'est fou, c'est de la folie, ça. Une vision personnelle pour ma vie quotidienne, qu'est-ce que ça signifie? Je n'ai pas une vision personnelle pour à 13h à l'après-midi. Moi, j'essaye d'aller de 12h de midi 7 minutes à midi 20, que je finisse le message. 20, l'année 2020, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas. Je me rappelle, j'étais à l'école biblique il y a longtemps. Il y a toujours des gens qui disent, je vais à l'école biblique 3 années, je vais aller là-bas, je vais aller là-bas, je vais rester 4 ans ici, 5 ans, je vais faire ça, je vais retourner, je vais être pasteur, marié, pasteur. Je me dis, comment est-ce que tu sais ça, toi? Oh, j'ai une vision de Dieu. Moi, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Ta vie, toi, elle est toute déjà devant toi. Moi, je ne sais pas dans 24 heures ce qui veut se passer dans ma vie. Ça peut être intimidant, n'est-ce pas? Sans une vision, c'est moi. Les gens périssent. C'est moi, ça. Je vais périr. Ce mot périr, la plupart du temps, dans la Bible, ça veut dire d'être détruit complètement. Donc, si je n'ai pas de vision, ma destinée, ça va être la destruction complète, peu importe ce que cela veut dire. Ce verset est différent, ces mots sont différents. Oswald Chambers a dit, sans une vision, Oswald Chambers a dit, les gens rejettent ce qui les retiennent. Ce n'est pas le mot pour être détruit, mais il parle de se relâcher, d'ignorer, de montrer un manque de retenue, de ne pas se retenir, de se libérer. Ça signifie, sans une vision, on va commencer à rejeter ce qui nous retient, ce qui nous retenait. Les choses que Dieu a fait dans nos vies, comment il a prioritisé avec nos choses, la vie de prière, des choses différentes, ça a commencé là-bas avec un salut glorieux, ça nous a soutenu, toutes ces choses-là. Sans une vision, on commence à négliger ces choses-là. Elles ne sont pas tellement importantes. On a perdu quelque chose. Pourquoi est-ce que je vais aller me retenir moi-même de... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être être ici, dimanche matin. Il y a d'autres choses que tu ne fais pas pour venir ici, parce que de venir à l'église, c'est la priorité. La prière, c'est une priorité. La prière, l'évangéliser. L'école biblique, peut-être c'est un appel dans ta vie. Pourquoi l'école biblique? Je ne sais pas. Pourquoi je suis ici? C'est une priorité. Ça, c'est ce qui se passait. Sans une vision, on va se relâcher. On va laisser partir les choses qui nous retenaient. La prière, tout ça qui nous retenait. Mais le chemin large, on va commencer d'emprunter. Est-ce que tu n'as jamais été dans un endroit comme ça? Ça se passe envers nous. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vision. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vision? Ce mot aussi ne signifie pas d'avoir une vision visible dans ce cas particulier. Schofield, le mot hébreu, c'est pas le mot ordinaire pour quelque chose que l'on voit, mais ça indique plutôt une révélation de Dieu. Attends une minute. J'ai eu des révélations de Dieu, moi. J'ai eu une vision. La Bible amplifiée nous dit, sans une révélation rédemptive de Dieu, on va rejeter ce qui nous retenait, ce qui nous gardait. Ce n'est pas une vision, mais c'est une révélation rédemptive de Dieu. Rédemptive. Si je n'ai pas cela, je vais rejeter les choses qui étaient prioritaires pour moi. Je vais m'éloigner de ces choses-là. Mais avec une révélation rédemptive de Dieu, en tant que ma motivation pour la vie, je vais me retenir moi-même. Je vais être contraint par l'amour de Dieu, motivé. Je vais faire les choses de Dieu. Je vais faire en priorité ma vie et les choses. C'est quoi une révélation rédemptive? Le mot rédemption, rédemptive, de recevoir le paiement d'un prix pour une rançon. C'est ce que rédemption, ça veut dire, rédemptive. On a été racheté par le sang de Christ. On a juste reflété, on a pensé, on a célébré la Sainte Cène à la croix. Une vision personnelle de ce qui a été fait pour moi à la croix. Ça peut me soutenir pour toute l'éternité. Quelque chose a été fait à la croix pour moi que personne d'autre peut faire. Quelqu'un dit dans la Bible, il n'y en a pas d'autre comme toi. Il n'y a personne qui peut aller sur cette croix et faire ce que Christ a fait pour moi. Personne. Personnellement, ce qu'il a fait pour moi, c'est une révélation rédemptive. Je regarde à la croix et je dis, chaque coup de fouet était pour moi. Chaque épine qui rentrait dans son cerveau, la couronne, c'est pour moi. Chaque mot cruel, chaque fois qu'il était frappé, ses cheveux étaient arrachés, sa barbe était tirée, il était nu à la croix. Tout ça, c'était pour moi. Et personne ne peut faire ça, mais uniquement lui. Les quelques derniers mois, dans ce verset dans Luc, où il a moqué de lui, il se moquait de lui. Ils ont dit, il a sauvé les autres. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas se sauver lui-même? Vous vous rappelez ça? Le voleur sur la croix, un des voleurs sur la croix. Et il y a le prêtre qui a dit, le souverain, le sacrificateur qui a dit, il a sauvé les autres. Pourquoi ne peut-il pas se sauver lui-même? Jésus n'a rien dit. On sait que Jésus aurait pu appeler des légions d'anges et il aurait pu l'enlever de la croix, le libérer. Volontairement, il est resté sur la croix. S'il s'était sauvé, lui-même, il n'aurait pas pu nous sauver, nous. Pensez à ça. Il aurait pu se défendre lui-même avec les mots à Pilate. Pilate a dit, n'as-tu pas de la défense de Dieu? Il n'a rien dit. Il aurait pu se défendre lui-même. Pilate a dit, moi je n'ai rien contre toi. C'est quoi l'histoire là? Il n'a rien dit. Peux-tu descendre de la croix, Jésus? Tu as sauvé les autres, pourquoi ne te sauves-tu pas toi-même? Il aurait pu dire, si je descends, moi, de la croix, vous allez en enfer, vous tous. Tous d'entre nous, s'il s'était sauvé lui-même, on serait tous été allés en enfer. Mais il est resté sur la croix parce qu'il nous aime. Il est sur la croix, il est humilié. Des choses inexprimables qu'on lui faisait, il a fait ça pour moi. Je ne peux pas laisser ces choses partir de ma pensée et les choses dans ma vie qui se passent différemment. Mais ça, je ne peux pas le laisser passer. L'impact que ça a eu sur ma vie pour toute l'éternité. Dans un million d'années de maintenant, tu sais de quoi on va parler? Le travail rédemptif de Jésus-Christ qu'il a fait pour chacun d'entre nous sur la croix. Dans 5 millions d'années de maintenant. C'est de ce qu'il parle dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 5. Il parle de ça, non pas de la vie quotidienne ou tout ce qui se passe. C'était dur hein, pendant quelques années comme ça. Il ne parle pas de ça, il parle de ça. Et lorsque je pense à la croix, j'ai ça, c'est ma motivation, c'est dans ma pensée. Tu sais quoi? Volontairement, je me retiens moi-même, je me retiens. L'amour de Dieu nous contraint. Lui, il est resté sur la croix parce qu'il nous aime. C'est la raison, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé moi, pointe le doigt sur toi, Dieu m'a tant aimé. Afin d'accomplir le plan de la rédemption pour nous. Je ne peux jamais le repayer. Je ne peux pas rationaliser ça. Je ne peux pas le laisser partir. Ça. Parfois, je suis familier. Ça se passe avec nous. Le cousin qui vit dans les montagnes en Italie, les montagnes n'ont pas le même effet sur lui. Je comprends ça. Mais ça, c'est bien plus grand que ça encore. Ça peut avoir un effet pour nous, pour toute l'éternité. Ça, c'est notre salut. C'est son grand amour qu'il a eu pour nous. Et j'embrasse le chemin étroit, parce que c'est tellement facile grâce à lui. On n'est pas racheté avec des choses corruptibles. L'argent et l'or, mais on a été racheté avec le précieux sang de Jésus-Christ. La seule façon que ça aurait pu se passer, c'était pour lui de rester sur la croix et il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour nous, pour notre cause. Lorsqu'on a ça pour notre vision ou une révélation pour nous, tout le reste devient facile. Dieu pourrait dire, où est-ce que tu veux aller? Tu peux lire ta Bible aujourd'hui avec moi? Dieu peut dire ça envers nous. Tu peux lire ta Bible avec moi? Oui, Seigneur. Bien sûr, Seigneur. Ce que tu veux, Seigneur. Ça nous motive, ça nous contraint. Et on a besoin de refléter. J'ai dit ça à l'autre culte précédent. Lorsque je vais évangéliser, tu te rafraîchis, tu parles à quelqu'un de l'évangile, tu te parles à toi-même. J'aime ça, ce fait dans l'évangélisation. Tu commences à parler, tu es enthousiaste. Pourquoi? Parce que tu parles de l'œuvre rédemptive de Christ. Comment ça s'applique à toi et aux autres, bien sûr. Tu parles de ça, tu parles. Et ça devient quelque chose qui est devant ta pensée, devant tes yeux, ton âme. Ça nous garde. C'est ça qui nous garde de laisser la vie de tous les jours. De laisser la vie de tous les jours devenir familière, de mettre de l'eau dans notre évangile. On devient familier. Je suis un chrétien, oui, mais j'ai ma propre chose à faire. Ces choses-là, c'est ça qui nous garde. C'est ça qui nous garde là. Cette révélation de la rédemption nous garde dans le chemin étroit, la voie étroite, dans le nom de Jésus. Amen.